Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème : Je ne t'abandonnerai pas.
Un premier texte dans la Bible, et je vous invite à faire cette lecture dans le livre des Hébreux, au chapitre 13 et au verset 5. Voilà, Hébreux, chapitre 13, verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Nous sommes dans une société précarisée et c'est vrai que de nos jours, l'insécurité sociale est devenue un fléau qui guette le plus grand nombre. Le stress est un des fruits de la précarité qui consume de l'intérieur et détruit les individus, les familles et les couples. Cette peur, lorsqu'elle s'extériorise, amène à des réactions de violence, autre résultat de l'instabilité de notre monde, de notre société. La violence déséquilibre la société actuelle, le désordre s'installe et l'on ne reconnaît plus aucune valeur, qu'elle soit humaine, morale ou spirituelle. Après avoir frappé à bien des portes ou à toutes les portes, l'espoir des plus forts s'effrite au fil des mois, des années, et tant d'efforts qui n'aboutissent à rien, et nous vivons dans une société dépressive. Quand l'angoisse remplace l'espérance, remplace la foi, nous sommes, et nous pouvons le dire et l'affirmer, nous sommes dans la précarité. Or, le verset que nous avons lu il y a un instant et que je relis, où Dieu nous dit ceci et il affirme, c'est une promesse, c'est un serment qu'il fait à ceux qui lui font confiance, « Je ne te délaisserai point » et je ne t'abandonnerai point. Nous avons une autre histoire dans la Bible, cette fois dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, premier livre des Rois au chapitre 17, où il est question du grand prophète Élie, qui va être conduit par Dieu à rencontrer une femme, pour une femme de foi, parce que c'est ainsi qu'elle se caractérise à travers le texte que nous allons lire dans un instant, où nous voyons que Dieu est rempli de compassion et rempli d'amour pour ceux justement qui lui font confiance. Et quand bien même il n'y a plus de solution, comme nous l'avons dit il y a un instant, eh bien Dieu, lui, toujours a des solutions et des réponses. Alors, nous allons lire ce passage dans 1 Roi chapitre 17 et verset 8, et je le lis tout simplement. « Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, fut adressée à Élie, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et là, Élie lui dit, « Ne crains point, rentre. « Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Nous sommes confrontés avec une situation gravissime qui sévissait en Israël il y a bien longtemps, du temps du prophète Élie, la famine. On sait, de par les textes bibliques, que cette famine qui surgit, qui s'abat sur le peuple de Dieu, était la conséquence, finalement, de l'égarement du peuple, parce que dans cette période, comme dans bien d'autres, Dieu avait donné des bénédictions naturellement à ce peuple élu. Et en ces termes, que dans la mesure où les Israélites suivraient les commandements, suivraient les promesses de Dieu, croiraient à ces promesses, Dieu leur assurait la bénédiction, la santé dans leur corps, le pain, l'eau. Et par contre, il les avait avertis que s'ils se détournaient de lui, s'ils l'abandonnaient, le ciel ne donnerait plus la pluie. Et on a aisément à s'imaginer ce que ça pouvait donner, puisque dans ces pays orientaux, quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de possibilité d'ensemencer les champs ou de récolte. Et cela, naturellement, avait pour conséquence la famine, la détresse, et puis naturellement la mort. Alors, nous restons avec cette pensée où Dieu a promis, dans cette première lecture que nous avons faite, où il le dit d'une manière formelle, affirmative, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Ce que nous constatons, c'est que nous sommes en présence, non pas d'une femme israélite, mais d'une étrangère, qui probablement avait une petite connaissance du Dieu d'Israël, ou sinon qu'elle n'avait peut-être pas du tout. Mais toujours est-il qu'elle a spontanément manifesté la foi lorsque le prophète est venu un beau jour frapper à sa porte pour de lui demander l'hospitalité. Et nous voyons que, en ce qui concerne Élie, il doit aller d'un lieu à un lieu, puisque l'eau du torrent précédemment, il est question d'un récit où il est question de l'eau d'un torrent, le torrent de Kérit, qui va tout simplement tarir. Et Dieu lui dit, et c'est ce qui fait justement là la reprise dans notre paragraphe, il lui dit, alors la parole de l'Éternel lui a été adressée en ces mots, où il a demandé au prophète de se lever et d'aller à Sarepta, c'est-à-dire par-delà les frontières d'Israël, dans un pays païen, dans un pays où finalement les gens vivaient à leur manière, selon leurs coutumes et leurs façons. Et c'est une particularité finalement que Dieu place devant nous, pour nous confronter avec peut-être des réactions de foi, mais qui ne sont pas le propre de ceux qui ont été enseignés, qui ont été qui ont grandi dans la connaissance de Dieu, mais précisément avec des gens qui ne connaissent pas grand-chose. Alors la foi, c'est avant tout une disposition morale du cœur, et elle s'attache particulièrement sur ce que Dieu nous dit. C'est l'apôtre Paul qui le précise dans l'Épître aux Romains, il dira en ces termes, il parlera de la foi en ces termes, il dira ceci, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors, c'est vrai que c'est précisément ce qui s'est passé. Lorsqu'Élie est arrivé dans cette ville étrangère de Sidon, il avait reçu l'ordre d'y rester. Dieu lui avait dit, « Mais tu resteras là. » Il devait peut-être lui-même se poser des questions en disant, « Mais si je ne suis pas nourri dans mon propre pays, alors si je vais dans une autre contrée, une contrée étrangère, ce n'est certainement pas là où les gens vont m'accueillir et me donner ce dont j'ai besoin. » Or, c'est ce qui fait qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel, parce qu'on s'aperçoit que Dieu n'est pas limité à une situation ou une autre. Il est capable, même d'une situation de stérilité, de précarité, comme on a cité le nom tout à l'heure, finalement de faire le miracle, de faire des miracles. Alors, comme promesse, Élie recevra cette parole de Dieu, il lui dira, « Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Ça semble tellement paradoxal, puisque, premièrement, il se trouve dans un territoire étranger, il s'agit finalement d'une femme qui est veuve, donc sans ressources naturelles, et Dieu va ajouter pour à Élie, il va lui dire, « Mais c'est elle qui va te nourrir. » Ça paraît complètement inconcevable et incompréhensible, parce que si Dieu lui avait dit, tu vas aller dans telle ou telle maison où il y a de la nourriture à profusion, ça peut se comprendre. Mais là, dans une situation où il ne reste rien, et c'est souvent ce paradoxe devant lequel nous sommes placés, c'est que là où Dieu, eh bien, là où nous voyons qu'il n'y a rien, Dieu est capable, eh bien, de faire des choses extraordinaires, des choses miraculeuses. Alors, il reçoit cet ordre, « J'ai ordonné donc à cette femme de te nourrir. » Nous voyons qu'Élie va obéir, c'est un homme de foi, il ne va pas discuter, il ne va pas contester en disant « Mais pourquoi tu m'envoies ici ?» Tu devrais peut-être m'envoyer ailleurs, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il ne va pas contester, il va se lever et il est allé. Alors, comme il est arrivé à l'entrée de la ville, nous rapporte le texte de ce livre Les Rois, il va rencontrer cette femme tout de suite et il nous est simplement rappelé donc qu'elle ramassait du bois. Qu'est-ce qu'elle avait l'intention de faire en ramassant ce bois, peut-être se réchauffer ou probablement, comme nous l'avons découvert dans la lecture, probablement préparer son dernier repas. Il lui restait encore quelques éléments de peut-être pour faire du pain, de la farine, de l'huile, et elle se préparait certainement à faire son dernier repas. Alors, Élie, fort de la parole qu'il avait reçue, a osé l'appeler, et il lui a dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Imaginez-vous. C'est un temps de famine, un temps de sécheresse. Il n'y a pas seulement que la terre qui est desséchée, mais les âmes sont desséchées. Il y a certainement, dans l'esprit des hommes, eh bien là, une désespérance, parce qu'ils savent que si la pluie ne vient pas, eh bien, inexorablement, la mort va les frapper. Et Élie va faire déjà un premier acte de foi dans ce sens, c'est qu'il va demander à cette femme un peu d'eau dans un vase, alors qu'il n'y avait plus rien. Comment pouvait-elle faire cette pauvre femme, afin que je boive? Et nous voyons que spontanément, et ça c'est quelque chose qui est très étonnant, c'est qu'elle alla en chercher. Elle aurait pu dire, eh bien toi l'étranger, tu retournes dans ton pays et tu te débrouilles par toi-même. Non, nous voyons que cette femme va obéir, et ce qui nous montre que quand il y a cette disposition de foi, quand il y a la main de Dieu qui est au-dessus des hommes, eh bien, comme l'Écriture nous le dit par ailleurs, que Dieu est capable d'incliner en notre faveur même le cœur des rois. Et nous constatons que cette femme, au lieu de contester ou de renvoyer Élie sous d'autres cieux, eh bien, elle va obéir. L'origine de son obéissance, c'est qu'elle ressent certainement dans son cœur, en regardant cet homme, peut-être est-elle touchée de compassion pour cet étranger qui passe dans sa maison, qui vient dans son pays, et elle se dit, bien voilà. Et je crois que quelque part, il y a déjà une disposition favorable. Dans le cœur de cette femme, il y a certainement eh bien, ce que l'on pourrait appeler de la bonté, de la compassion. Elle voit cet homme, elle a certainement, elle et son fils, probablement des besoins, de grands besoins, et il lui reste encore un petit peu d'eau, mais elle va le donner, elle va le partager. Et ça, c'est... Il y a Dieu qui puisse faire des choses ainsi, et de permettre d'incliner le cœur de cette pauvre femme. Alors, Élie ne va pas s'arrêter là, il va recevoir de la main de cette veuve ce qu'il demande, et il va l'appeler à nouveau, nous rapporte eh bien, le passage, et il va lui dire « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Alors, ça semble tellement exagéré, une chose pareille. Il lui demande de l'eau, elle lui donne de l'eau. Elle n'a plus rien à manger, il lui demande du pain. Et là, elle va répondre, mais elle va répondre d'une manière assez étonnante, ce qui montre bien que c'est vers cette femme-là que Dieu a envoyé Élie, et non pas vers une autre, parce qu'il y a des dispositions qui vont la caractériser, que nous allons découvrir au fur et à mesure de notre méditation, parce que la réponse qu'elle va donner est la suivante, elle va dire « L'Éternel, ton Dieu ». Et ça, c'est intéressant de prendre en considération, parce qu'on se rappelle que c'est une étrangère, une femme qui est démunie de tout. Elle est veuve, elle a un fils, elle s'attend un jour ou l'autre à mourir, et elle va identifier cet homme, Élie, qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu auparavant, probablement, et elle va lui dire, eh bien, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Et ça, c'est étonnant. On aurait pu s'attendre certainement à une telle réponse de la part d'un Israélite, parce que tous les Israélites savaient que le Dieu de la nation, c'était l'Éternel. On savait que c'était un Dieu qui faisait des miracles, qui qui avait fait des miracles, qui était encore en capacité de faire des miracles, là où il y a de la foi. Mais une étrangère, c'est véritablement surprenant. Alors, elle va affirmer, mais il est vivant. Et néanmoins, elle dira cette parole, elle dira, je n'ai rien depuis, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Vous savez, lorsque nous repassons ce texte, cela nous rappelle un petit peu ce que Jésus a fait dans cette histoire qui nous est rapportée dans les évangiles, où il est question de la multiplication des pains, où il y a des foules immenses qui sont autour de Jésus, qui sont venues pour l'écouter, pour écouter sa parole. Des gens qui ont des besoins, des gens qui ont faim et soif, qui n'ont peut-être pas besoin autant de nourriture, de se nourrir au niveau de leur corps, mais ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais après des heures et des heures où ils vont écouter Jésus, ils vont se nourrir de cette parole de Dieu, nous voyons que la nuit va tomber et Jésus va remarquer que ces gens dans ce lieu désert, sur les collines de Galilée, eh bien, doivent rentrer chez eux, mais ils vont tomber d'inanition puisqu'ils n'ont pas mangé depuis un certain temps. Et là, ils vont absolument trouver les vivres. Il faut absolument nourrir cette foule. Les disciples sont désemparés parce qu'ils sont en train de compter un petit peu la monnaie qu'ils ont dans leur sac pour voir si on peut acheter dans les villages avoisinants du pain ou autre chose. Et nous voyons que c'est le même phénomène qui se produit. C'est qu'avec peu, Dieu peut faire beaucoup. Et il se trouve qu'il y a un petit garçon qui dispose dans cette foule-là, dans ce contexte, de 5 pains et 3 poissons. Et nous voyons que c'est à partir du peu, c'est à partir de rien du tout, à travers ces 5 pains et ces 3 poissons, que Jésus va nourrir miraculeusement, d'une manière surnaturelle, 5000 hommes. Et le texte nous dit dans l'évangile de Marc, sans compter les femmes et les enfants. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et ça, je crois que c'est la démarche de la foi. C'est le principe même de la foi, c'est qu'avec rien, mais beaucoup de foi dans son cœur, Dieu est capable de faire l'extraordinaire. Et Jésus n'a-t-il pas dit, dans une circonstance autre, n'a-t-il pas dit à ceux qui l'écoutaient dans son temps, que si nous avions de la foi gros comme un grain de sénévé, c'est-à-dire une des plus petites semences qui existent au monde, nous serions capables de transporter les montagnes. Et le principe de la foi, c'est cela. C'est véritablement avec le peu dont nous disposons, qui nous semble tellement insignifiant, tellement faible, que Dieu, de ce petit reste, est capable de nourrir 5000 personnes et de donner, comme nous allons le voir maintenant, de donner à manger à Élie, à cette veuve et à son fils. Et vous allez voir que ce n'est pas une fois, mais cela va se renouveler parce que le principe de la foi, c'est de faire confiance. Et souvent, dans nos expériences, là où Dieu veut nous attirer, ce que parfois nous rechignons naturellement, parce que nous n'aimons pas souffrir, nous n'aimons pas la souffrance, et cet engagement demande beaucoup, il demande de la négation de notre part, il nous demande un abandon complet et total entre les mains de Dieu. Mais la seule chose que Dieu attend, c'est qu'avec le peu dont nous disposons, nous puissions lui donner, nous puissions lui offrir. On se souvient également, je cite encore un autre passage qui me vient à l'esprit, de cette veuve qui va au temple et qui n'a qu'en tout et pour tout 2 petites pièces de monnaie, et elle va les déposer toutes les deux dans le tronc, alors qu'il y a des hommes qui passent et qui retirent de leur poche ou de leur soc des pièces à profusion et qui les font tomber dans le tronc du temple. Et Jésus, qui est en train de regarder dans un endroit là, près du tronc, va remarquer cette petite femme qui, elle, va mettre tout ce qu'elle a. C'était certainement pour le repas du soir ou le repas, les 2 petites pièces représentaient sa subsistance, sa nourriture, pour le jour et peut-être pour le lendemain. Elle aurait pu en garder une, mais elle a donné toutes les deux. Pourquoi ? Parce qu'elle avait compris qu'on ne peut pas faire une part pour Dieu et une part pour soi. On fait tout pour Dieu et Dieu s'occupe de nous. Et je crois que c'est aussi ce qui revient à dire dans le Sermon sur la montagne, cette autre parole que Jésus nous laisse, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus le marché. » Je reviens à un autre texte où il est dit ceci, la femme dit ceci, « Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Donc je n'ai rien. » Qu'est-ce que l'on peut faire avec rien ? Nous, on ne peut rien faire, mais Dieu peut tout faire. Dans la mesure où, véritablement, nous lui apportons. Nous lui apportons, nous lui donnons, nous nous offrons totalement et complètement. Et c'est ça le miracle de Dieu. La foi, ce n'est pas un credo, ce n'est pas une profession religieuse, mais la foi, c'est une réalité. Et où nous faisons peut-être davantage d'expériences avec Dieu, c'est quand nous sommes dans un grand besoin. Lorsque nous sommes souvent dans des extrémités de notre vie, lorsque nous sommes dans des impossibilités, dans l'impuissance, où là nous pouvons dire, eh bien, ça y est, tout est perdu, sauf Dieu. Et nous voyons que c'est souvent à ces moments-là que nous faisons les plus belles expériences de notre vie parce que Dieu entend nos cris et il y répond. Mais faut-il savoir lui donner ? Cette femme, donc, le constate, elle le fait constater au prophète, « Je n'ai rien, sinon une poignée et un peu. » Et voici, « Je ramasse, dira-t-elle, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. » Et elle ajoute, « Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Je trouve que c'est un texte extraordinaire parce que ce qui est formidable, c'est que cette femme, eh bien, elle y met toute sa vie dans tout cela. Elle sait qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Nous mangerons, je prépare le dernier repas, nous allons le consommer et après nous allons mourir. Pourquoi mangeait-elle pour mourir ? Elle aurait pu mourir à jeun. Mais je crois qu'il y a quand même une histoire qui va au-delà naturellement dans tout cela, c'est que elle nous montre une leçon. Elle nous montre une leçon, c'est que nous vivons pour Dieu et nous mourons pour Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand nous avons vraiment la foi, nous ne mourrons jamais avec Dieu. C'est ça. Il ne nous laissera jamais dans une situation sans issue. Il ne nous laissera jamais dans une situation de désespoir. Parfois, nous touchons le désespoir. Parfois, nous sommes dans un état de d'effarement, dans un état d'angoisse, d'anxiété profonde. Mais derrière tout cela, je crois qu'il y a toujours ce regard de Dieu qui nous attend et qui nous dit « Rassure-toi, ne crains point, je suis là, je suis près de toi, mais continue, mets encore ta confiance en moi et tu vas voir ce que je suis capable de faire pour toi. » C'est vrai pour la guérison des malades, dans des situations terminales. C'est vrai dans des situations économiques, hein, telles que nous en avons parlé tout à l'heure, puisque nous sommes dans des temps de précarité, hein, où beaucoup de gens perdent leur emploi et avec cela, eh bien, pensent que leur vie est finie, terminée. C'est peut-être aussi tout ce monde qui est frappé par la dépression, par tout cet état de, où les gens ne savent plus véritablement vers qui se tourner. Peut-être des angoisses à caractère spirituel. Alors, une chose qui est certaine, c'est que cette femme s'attendait à mourir, mais elle ne va pas mourir. Et très souvent, notre vie, les suggestions que nous avons au fond de nous-mêmes, les pensées qui nous perturbent, qui nous troublent, nous montrent qu'il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. Mais lorsque l'homme dit « c'est fini », Dieu dit et nous dit « ça commence ». Et il faut souvent atteindre le fond, il faut souvent atteindre les limites de nos capacités de nous en sortir nous-mêmes, abdiquer, capituler devant Dieu, pour qu'à ce moment-là, eh bien, c'est lui qui nous prenne en main. Parce que tant que nous avons encore un peu de force, tant que nous avons encore de la vitalité, tant que nous avons encore les moyens de nous en sortir, eh bien, nous allons user jusqu'au bout. Et là, Dieu ne peut rien faire. Parce que le principe de la foi, c'est que si je fais, Dieu ne fait pas. Mais à partir du moment où je renonce à faire, c'est Dieu qui va faire à ma place. Et nous allons voir autre chose. Dans les résultats, ce que nous pouvons réaliser nous-mêmes, c'est toujours très limité, c'est toujours très court. Mais quand Dieu véritablement pose sa main sur une vie, eh bien, il va bien au-delà de ce que nous avons pu imaginer même lui demander. Alors, cette femme, donc, eh bien, se prépare à mourir. Et Élie va prononcer ces paroles. Il va lui dire ce que nous avons besoin d'entendre. Et si quelqu'un, en écoutant ce message, eh bien, peut-être est dans une situation d'extrême détresse, et en pensant que peut-être demain ou après-demain, eh bien, c'est la mort, qu'il n'y a pas d'autre issue que des perspectives où son horizon est bouché, eh bien, écoutez ce que dit Élie. Et Élie le dit de la part de Dieu, comme nous le trouvons très souvent dans le Nouveau Testament, dans la bouche même de Jésus à ceux qu'il rencontre et qui sont au désespoir, alors Jésus dit, ne crains pas. Ne crains pas. Il dira à un homme qui s'appelle Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Tout simplement. De faire confiance. Mais comment pouvons-nous faire confiance en quelqu'un qui est invisible, en quelqu'un qu'on ne voit pas? Cette femme voyait Élie, certes. Élie parlait de la part de son Dieu. Lui avait confiance en son Dieu. Mais c'est très difficile. Parce que comment pouvons-nous fonctionner sans voir? Nous sommes renfermés dans un monde fini. Nous avons des réactions qui sont motivées par nos sens, hein, parce que nous voyons, parce que nous entendons, parce que nous touchons. Et tout cela, eh bien, nous rassure. Mais la foi, c'est tout le contraire. La foi, c'est le sixième sens. C'est croire à l'invisible. C'est croire à ce que nous ne pouvons pas appréhender avec notre vie d'homme. Alors, la parole d'Élie est très pertinente. Il lui dit « Ne crains point ». Alors, je crois que c'est un encouragement peut-être pour celui qui est en train de trembler au moment où je parle, pour celui qui est en train de s'angoisser, celui qui est en train de mourir en quelque sorte, où la parole de Dieu, ce n'est pas l'homme qui le dit, mais c'est Dieu qui te le dit, qui vous le dit, « Ne crains point ». Alors, s'adressant toujours à cette malheureuse, il va lui dire « Tu rentres ». Et tu fais comme tu as dit. Et qu'est-ce qu'elle avait dit? Je viens de ramasser du bois. Je vais préparer un foyer. Je vais préparer la nourriture. Nous allons manger, nous allons mourir. Alors c'est vrai que jusqu'à un certain point, elle va faire. Mais quand à mourir, elle ne mourra pas. Parce que ça appartient à Dieu de faire vivre. Et de faire vivre particulièrement ceux qui espèrent en lui. Ceux qui croient en lui. Alors, le prophète poursuit, et troisième insistance du prophète, il lui demande, dans un premier temps, à boire alors qu'elle n'a pas d'eau, elle lui en apporte quand même. Il lui demande un morceau de pain. On vient de sortir de cette conversation entre elle et le prophète, et là, il va ajouter ceci, il ajoute ceci, seulement, prépare-moi d'abord. Elle parlait de son fils et d'elle, qui allait manger et qui allait mourir. Mais le prophète retourne les choses de cette manière, il lui dit, mais seulement, avant tout cela, avant tes prévisions, avant ce que tu crois, que ce qui va se passer, vous savez, c'est toujours la même chose, hein. Il ne se passe jamais ce que nous croyons. La peur, la crainte, nous fait imaginer des choses qui bien souvent ne se réalisent pas. Alors, il va simplement lui dire, mais prépare-moi d'abord. Ça, c'est un acte de foi. Donner à manger à cet étranger, à ce prophète, à ce passant, avant son fils et elle. Elle se serait peut-être privée de manger, elle, pour donner à manger à son fils, certainement. Mais donner à manger à cet homme qui fait irruption dans sa vie comme ça, dans sa maison, en oubliant sa misère à elle et à son fils, et lui donner la priorité, et pourtant le prophète le dit, d'abord. Avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Il y avait peut-être de quoi se révolter, d'incompréhension pour cette femme, en disant, mais c'est pas possible. J'ai déjà à peine pour moi et pour mon fils, il me demande de lui faire cette nourriture pour lui, et il me dit, il ose me dire, alors, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, mais qu'est-ce qui va rester? Et vous savez, à travers les lignes de la Bible, quand les choses sont dites de cette manière, ça devait certainement faire sous-entendre à cette femme que s'il y en avait d'abord pour le prophète, il y en aurait encore pour elle et pour son fils. Ce sont des trésors insoupçonnés de Dieu que nous ne voyons pas. Mais nous avons besoin de les comprendre à travers ce que nous dit de simples phrases comme cela. Et Élie ne parle pas de lui-même, il parle par inspiration. Dieu lui avait promis qu'il serait nourri à Sarepta, dans le pays de Sidon, par une pauvre femme veuve qui n'avait qu'un fils et qui n'avait plus rien à manger. Alors on est un petit peu perturbé par tout cela, parce que on se dit, si nous raisonnons avec la logique de notre monde d'aujourd'hui, avec notre logique à nous, on se dit, mais c'est fou une histoire pareille. Comment peut-on faire une chose semblable? Comment peut-on encore avoir de la nourriture après avoir donné à manger, avoir rassasié cet étranger et en encore en avoir alors qu'elle savait pertinemment qu'il n'y en aurait même pas pour deux, alors pour trois, et lui donner au troisième la priorité? C'est fou, c'est véritablement fou. Mais vous savez, dans la Bible, il nous est dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes, plus sage que tous les raisonnements humains, que toute la logique, toutes les philosophies, tous les raisonnements que les hommes peuvent se donner. Et il ajoute naturellement, car ainsi parle l'Éternel, et il fallait bien qu'il y ait cette parole, parce qu'autrement, ça ne pouvait pas cadrer, ça ne pouvait pas fonctionner. Alors il ajoutera, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et on comprend à ce moment-là que la parole du prophète, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous ouvrons la Bible, on s'aperçoit que tout ce qui est contenu dans ce livre, la Bible, tout ce que contient l'Évangile, les enseignements de Jésus, ce n'est pas la parole de ces hommes auteurs de ce message, mais des hommes qui se sont succédés les uns après les autres en 19 siècles et qui ont été tous inspirés par le même esprit, c'est un esprit de foi. Ils avaient confiance dans ce que Dieu disait. Et aujourd'hui, nous sommes placés devant la même situation, la même réalité. Dieu est vivant, il est puissant. Il est capable encore, comme hier, de faire des choses extraordinaires dans la mesure où nous lui faisons confiance. Alors, le prophète précise bien, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et aujourd'hui, je crois que le message évangélique, le message de Jésus, est un message qui parle aux hommes de notre temps. Les hommes dans la détresse, les hommes dans le découragement, les hommes qui ont besoin de consolation, les hommes qui sont là détruits, détruits physiquement, détruits moralement, détruits psychologiquement, détruits spirituellement. Dieu leur parle, Dieu nous parle et nous adresse un appel à mettre notre confiance en lui complète et totale. La farine, ainsi parle le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Ça, ça force l'admiration. Ou alors, c'est véritablement, eh bien, c'est en tous les cas, c'est le Waterloo de notre raison. Parce que, une chose qui est certaine, c'est que comment comprendre une telle chose si nous ne la comprenons qu'avec le cœur? Le cœur rempli de foi, le cœur rempli de confiance, le cœur qui croit que c'est fini, que tout est perdu, voit à ce moment-là, dans le brouillard, dans la nuit, dans le crépuscule, une lumière qui s'allume au lointain et qui se rapproche de plus en plus. C'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est le secours de Dieu. Puisque les paroles sont fermes, la farine qui est dans le pot ne manquera pas. Ça, c'était comme l'histoire que j'ai citée tout à l'heure, des 5 pains et des 3 poissons. Il y avait réellement 5 pains et 3 poissons. Et ils se sont multipliés par des milliers, des milliers et des milliers. Et on sait très bien que le résultat, c'est que tout le monde est reparti du lieu où était Jésus, rassasié. Dieu est capable de nous rassasier de ses paroles. Il est capable de nous rassasier de miracles. Il est capable de nous rassasier d'extraordinaires. Et quand un homme ou une femme a fait cette expérience de l'extraordinaire, du miraculeux de Dieu dans sa vie, alors à ce moment-là, ça change tout. Ce n'est plus une foi de tradition, ce n'est plus une foi d'adhésion, c'est une foi de conviction. Parce qu'on sait ce dont Dieu est capable, ce qu'il a fait, ce qu'il fait pour nous, ce qu'il est capable de faire. Alors, effectivement, les choses se sont passées, puisque l'huile, la farine, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce n'était pas une promesse pour l'aujourd'hui, ce n'était pas une promesse pour... Là, au moment où Élie se trouvait séché de femme. Mais c'était pour jusqu'au temps de la moisson. Donc le temps de la moisson, ça voulait dire qu'il fallait que les semailles soient faites, vraisemblablement, que les saisons passent, que le temps fasse son œuvre sur la nature jusqu'au moment eh bien, où véritablement tout allait repartir pour pouvoir manger. Et manger régulièrement. Le miracle de Dieu, c'est quelque chose qui intervient parce que Dieu change l'ordre des choses. Il intervient dans dans l'ordre qu'il a établi pour en modifier finalement les effets. Et nous voyons que la promesse n'était pas seulement pour un jour, mais jusqu'au jour où Dieu enverrait de la pluie tout à nouveau. Parce que quand la pluie tombe, il faut après que les plantes puissent être poussées, se développer, mûrir, et puis après c'est la récolte. Donc ça allait durer très longtemps encore. Mais il avait reçu la promesse, Élie, nous l'avons lu, quand Dieu lui dit, mais lève-toi, va à Sarepta, et demeure-y. Demeure. Demeure dans cet endroit. Ne va pas ailleurs, parce que la nourriture, elle est là. Parce qu'elle ne sera pas ailleurs, tout simplement. C'est là où je veux véritablement que tu demeures. Alors cette femme, et nous voyons l'obéissance de la foi, parce que ça, c'est caractéristique. Quand on dit qu'on a la foi, on obéit. On obéit à Dieu. On obéit à sa parole, on croit à sa parole. Alors, elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Et ce qui est extraordinaire dans ces textes de l'Ancien Testament, c'est que Dieu prête sa parole à un homme et il accomplit la parole de l'homme comme la sienne. À vrai dire, c'est la sienne. Et il y a chez ces hommes une grande foi. Parce qu'ils disent, ils prononcent, ils parlent au nom de Dieu. Dieu parle à travers leur bouche et les choses s'accomplissent, comme selon la volonté de Dieu. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Pendant longtemps. Je reviens sur la pensée, ce n'était pas un jour, ce n'était pas deux jours, ce n'était pas huit jours, ce n'était pas un mois. Mais il a fallu certainement plusieurs saisons, une année. Dieu ne nous laisse jamais dans notre détresse. Quelquefois, nous pensons que c'est fini, nous allons mourir, mais Dieu dit non. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Parce que je veux que tu vives. Et cette femme, son fils, Élie, ont vécu du miracle. Et c'est ça être chrétien. C'est de vivre du miracle de Dieu en permanence tous les jours. Combien il y a d'ingratitude dans notre monde lorsque nous voyons que des gens pensent et croient que tout leur appartient. Que tout vient d'eux, de leurs efforts. Alors qu'il suffit de peu de choses. Nous sommes dans une société véritablement comparable. Eh bien, à un géant au pied d'argile, il suffit peu de choses pour que tout s'écroule. Et ça, on n'y pense pas. Nous sommes dans vraiment un monde fragile. Et quand on parle de précarité, on ne peut pas s'imaginer que l'on dit juste. Parce que tout ça, c'est bien frêle, bien fragile. Donc, pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle, sa famille, aussi bien qu'Élie. Ça devient une bénédiction collective. Cette femme, eh bien, a cru dans la parole du prophète, qui lui croyait dans la parole de Dieu, qui a donné la parole de Dieu à cette femme, et ils ont eu de quoi vivre. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Quand même assez extraordinaire, tous les matins, elle devait se présenter devant cette cruche, et devant ce pot, et elle pouvait à chaque fois y puiser tout à nouveau, et elle retirait de la farine, elle retirait de l'huile, et puis au bout d'un certain temps, elle a certainement trouvé l'habitude. Elle ne devait pas douter. Le premier jour, quand elle est revenue, ou le deuxième jour, elle a dit, est-ce qu'il y en a encore? Et il y en avait encore. Ça nous rappelle l'histoire de la manne, des Hébreux dans le désert. Et ça nous rappelle également de l'eau qui suivait, cette eau qui jaillissait du rocher et qui suivait Israël pour que Israël ne meure pas de faim ni de soif. C'est ce que Dieu fait dans notre vie physique, dans notre vie morale. Et dans notre vie spirituelle, il nous donne la nourriture dont nous avons véritablement besoin. Il pourvoit nos besoins. Alors, il n'y a pas eu de manque, il n'y a pas eu de diminution en raison de la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. La parole d'Élie, aujourd'hui, c'est la parole d'Élie. Nous tournons les pages de notre Bible, un jour, ce sera la parole de Moïse, ce sera la parole de David, ce sera la parole des prophètes, ce sera la parole des uns et des autres. Mais il n'y a aucune parole qui n'a égalé celle que Jésus nous a laissée, c'est-à-dire le message de l'Évangile. À tel point que même ses adversaires, quand ils ont entendu Jésus, pouvaient dire « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Et lorsque nous en référons dans nos soucis, dans nos détresses, dans nos peines, dans nos désarrois, dans nos désemparements, à la parole de la Bible, et particulièrement à la parole de Jésus, eh bien Dieu ne manquera pas de l'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je termine en revenant simplement sur cette première lecture que nous avons faite. quand il nous est dit ceci, quand Dieu dit ceci. Et je pense que c'est tellement important de nous en souvenir. Et c'est sur cette note que j'aimerais laisser les auditeurs, quand Dieu nous dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage à travers ce message, parce que peut-être en raison de votre situation, en raison de la crise existentielle que vous traversez, vous vous dites « Eh bien, je vais mourir ». Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et il y a certainement, à travers cette parole que nous partageons en ce moment, eh bien, une bouée de sauvetage, une ancre pour votre âme, pour que vous puissiez, eh bien, véritablement vous ressaisir, vous rattraper. Et lorsque l'on saisit la main de Dieu, on n'est jamais perdant. Parce que celui, lorsqu'on saisit sa main, il ouvre sa main et il nous donne la profusion. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Nous allons prier quelques instants maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Je te demande de visiter et de bénir ceux qui ont entendu ta parole, ceux qui entendent ta parole. Savons que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est l'évangile de Jésus-Christ et c'est avant tout une bonne nouvelle. Visite ces hommes et ces femmes qui entendent, qui reçoivent, qui écoutent. Fais-leur du bien. Et qu'à leur tour, eh bien, ils puissent véritablement crier à toi, te prier, Seigneur, puisque tu nous rappelles que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Alors tu es venu nous affranchir de nos détresses morales, spirituelles, et tu es venu nous donner aussi, eh bien, le pain. Tu es venu nous donner l'eau, tu es venu nous donner la farine, tu es venu nous donner l'huile, c'est-à-dire, eh bien, la réponse à tous nos besoins existentiels, c'est toi qui réponds. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier pour l'expérience à laquelle tu nous appelles, dans laquelle tu veux nous faire entrer, et nous voulons tout simplement te dire, eh bien, Seigneur, au nom de Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.